à Tel Aviv ce matin. Le chef de la diplomatie américaine en tournée au Proche-Orient a embarqué pour Khartoum. Ce vol direct entre Israël et le Soudan, le premier de l'histoire, illustre la volonté de Mike Pompeo d'encourager les pays arabes de la région à normaliser leurs relations avec l'État hébreu. Car il y a 10 jours, sous l'égide de l'administration Trump, les Émirats arabes unis et Israël ont déjà ouvert la voie avec l'annonce d'un accord. Un rapprochement historique que le Premier ministre israélien n'hésite pas à comparer au traité de paix signé avec l'Égypte et avec la Jordanie.
C'est la plus grande avancée vers la paix entre Israël et le monde arabe depuis 26 ans. Et cela marque le troisième accord de paix entre Israël et une nation arabe.
Une paix surtout basée sur la coopération économique, ouverture de liaisons aériennes, tourisme, collaboration dans le secteur des hautes technologies. L'accord dit d'Abraham va officialiser et développer des relations commerciales déjà existantes entre Israël et Abu Dhabi. Ce rapprochement a provoqué la colère des Palestiniens qui accusent les Émirats de trahison.
Ils ont tourné le dos à la cause palestinienne. Et ils viennent nous dire que grâce à leur accord, l'annexion des territoires est suspendue et que nous devrions être heureux. C'est une tromperie.
Le rapprochement entre Israël et les monarchies du Golfe annonce-t-il une paix durable? Cet accord est-il vraiment historique ou vise-t-il surtout à contrer l'influence de l'Iran au risque d'attiser les tensions dans la région?
Un téléspectateur qui s'interroge sur le timing et qui demande pourquoi cette normalisation entre les Émirats arabes unis et Israël intervient-elle maintenant, Frédéric Ancel? Pourquoi cet accord, en effet, semble avoir pris tout le monde de court un petit peu? Et est-ce qu'on sait depuis quand il était dans les tuyaux, cet accord? Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, alors, tout le monde de court, je ne sais pas. Le premier bureau d'intérêt commercial entre les Émirats arabes unis et Israël, c'est 96. Hein. Donc ça ne date pas d'hier, d'une part. D'autre part, effectivement, c'était déjà dans le, je veux dire, dans le sens de l'histoire moyenne-orientale liée à l'Iran, à la montée en puissance de la menace, en tout cas de la perception de la menace iranienne, à la fois par les pétromonarchies du Golfe et par d'autres États arabes sunnites et par Israël, évidemment. Après, sur les temps plus courts, je vous dirais
ça
que...
Ça s'est accéléré un petit peu.
Oui, ça s'est accéléré. Je vous dirais que la fin de ce mandat... Alors, premier...
Trumpien.
Oui, c'est ça, de Trump.
Et déterminé.
Avec, c'est ça, avec une pression très forte à la fois de Trump et de Pompeo, on l'a bien vu là ces dernières heures, a dû vraisemblablement accélérer encore un peu le processus.
Le chiffre du jour, Claude.
Frédéric Ancel vient de le dire, cet accord entérine quelque chose qui existait déjà. Notre chiffre du jour, donc, 300 millions, comme les 300 millions de dollars d'échanges qui existent déjà entre Israël et les Émirats arabes unis. Ces échanges qui concernent notamment le domaine de la sécurité. D'où ma question pour vous, Jean-Paul Chalignolo. Quelle est la signification et l'intérêt politique d'officialiser ce qui existait depuis des années?
Oui, moi je crois qu'on est dans une perspective de très court terme. C'est pour ça que j'étais un peu réticent à évoquer l'idée d'un accord historique ou une normalisation historique. Je crois qu'on est dans une conjoncture très particulière dont on vient d'évoquer quelques aspects, notamment le fait que Trump va à des élections prochainement. Et donc au fond, je reprends ma formule qui a été évoquée tout à l'heure, de petits arrangements entre amis. C'est-à-dire qu'en fait, on a trois personnages en quête... de réhabilitation. Trump s'est complètement fourvoyé dans sa volonté de faire un deal du siècle. Il a échoué et il s'en sort par le haut.
Le deal du siècle, c'est-à-dire la résolution globale du conflit.
C'est-à-dire
avec
l'idée
les
qu'on va, je vais réussir à régler la question israélo-palestinienne, ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Donc il en sort un peu par le haut, même si c'est pas ça qui va peser de manière fondamentale sur l'élection américaine. En tout cas, il peut se targuer de dire voilà, j'ai réussi un accord. Si on regarde Mohamed Ben Zayed, alors c'est beaucoup plus compliqué, mais lui aussi, il avait besoin de se rapprocher davantage encore des États-Unis, d'officialiser tout cela. Et puis il est quand même dans une très mauvaise position, que ce soit à l'égard du Qatar, on n'a pas le temps d'évoquer ça en détail, ou à l'égard du Yémen. Donc je pense que c'est une manière aussi de s'affirmer par un geste comme ça, unilatéral, il ne faut pas l'oublier. Quant à Netanyahou, je dirais qu'il est empêtré dans des affaires internes, judiciaires, dans des affaires politiques aussi. Il essaie de se maintenir au pouvoir et envisage une quatrième élection, c'est quand même assez extraordinaire, pour garder le pouvoir.
Il manifeste contre lui pratiquement quotidiennement.
Donc et là, il s'était focalisé presque de manière obsessionnelle sur l'annexion qu'il tirait du rapport Trump. Et finalement, c'était une impasse, y compris avec Trump qui n'en voulait plus. Donc là aussi, il sort par le haut, entre guillemets. Et je pense que s'il y a des trois le plus intéressant à cette affaire, le plus qui s'en sort le mieux, c'est évidemment Benjamin Netanyahou. Parce que là, il a ses intérêts, mais aussi celui d'Israël qui réussit à avoir une normalisation avec un État arabe.
Amélie Chély, en quoi est-il historique cet accord? De quel point de vue?
Par rapport à l'Iran, vous entendez?
Oui, par rapport à l'Iran. C'est votre
déjà
analyse.
La première chose qui peut être intéressante d'observer, ce sera l'ouverture d'un deuxième canal diplomatique, extrêmement important, parce que jusqu'à présent, il n'y a que le sultanat d'Oman qui jouait ce rôle, en fait, entre notamment Israël et l'Iran. On sait par exemple qu'en 2013, au lendemain de l'élection de Hassan Rouhani, le président iranien, le sultanat d'Oman avait déjà commencé à lancer l'appel à des négociations sur des questions très ciblées et qui a trouvé son point d'orgue en 2018 quand Benjamin Netanyahou s'est rendu à Oman. Et bien là, l'ouverture d'un deuxième canal avec justement les Émirats arabes unis pourrait permettre d'endiguer toute perspective de confrontation directe et violente.
Mais pour être clair, ce n'est pas forcément un encerclement de l'Iran par les alliés des États-Unis, ça peut être une manière pour l'Iran de dialoguer avec le pays qui est son ennemi emblématique, Israël.
Oui, alors il ne s'agira absolument pas d'un rapprochement en vue d'une normalisation des relations, parce que c'est inscrit dans l'ADN de la République islamique d'Iran, mais ça permettra par exemple de ne pas surinterpréter des manœuvres qui pourraient donner lieu à des confrontations directes. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Deuxième point important, et ça va dans les intérêts de l'Iran, mais c'est peut-être aussi à déplorer, on risque d'observer une sorte d'explosion du soft power iranien si jamais ces accords entre les Émirats arabes unis et Israël donnent lieu à la signature d'accords d'autres voisins musulmans, ils vont rester les ultimes champions finalement de la cause palestinienne.
Avec la Turquie.
On en parlera tout à l'heure. Je pourrais y revenir, bien évidemment. Et surtout qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, le précédent conflit syrien a été confessionnalisé et les Iraniens ont pris toute la mesure de la haine des Arabes sunnites à l'égard des Perses chiites. Donc ils ont vraiment un vernis, un blason à redorer. Donc ça leur permettra aussi de finalement gagner, comme ça avait pu être le cas du temps d'Ahmadinejad, le cœur des rues qui peut-être viendront critiquer les mesures prises par
l'Europe. Qui est un ancien président iranien très dur, notamment sur la question israélienne.
Puis il y a un troisième point, si vous me permettez, qui me paraît aussi intéressant, c'est peut-être le fait qu'on ne parlera plus de vue de l'esprit du côté iranien, si jamais il y a des manœuvres malveillantes, et que l'État iranien dit « bon, bah, ça vient de ce territoire qui n'a pas encore d'ambassade israélienne ». C'était une vue de l'esprit, ça n'était pas crédible du point de vue de la presse, voire même du point de vue des juridictions internationales. Désormais, ça risque de prendre en crédibilité.
Alors, on revient à l'accord. Nadia, à propos d'une vente d'armes,
oui, c'est
qui
un
pose
dossier,
problème.
Oui, c'est un dossier très sensible qui a fait l'objet de révélations. C'était dans la presse israélienne et américaine ces dernières semaines. On a appris donc que les États-Unis, dans le cadre de cet accord, avaient prévu de vendre aux Émirats arabes unis des avions de combat. On va voir les images, ce qu'on appelle les célèbres F-35 et également des drones de dernière génération. Et ça pose deux problèmes et deux problèmes de taille. Le premier, d'abord, c'est qu'il semblerait que ça se soit fait dans le dos des Israéliens. En tout cas, Netanyahou a dit devant la presse qu'il s'y était opposé et il en aurait parfaitement le droit, selon la loi. C'est la règle, ça, depuis la guerre de Kippour, de 73, que les États-Unis garantissent à Israël ce qu'on appelle l'avantage militaire qualitatif au Proche-Orient. Autrement dit, c'est l'armée israélienne qui doit conserver une supériorité technologique. Et puis, il y a un deuxième problème qui est important également, c'est que cette négociation autour de cette vente d'armes aux Émirats, elle s'est faite également, visiblement, à l'insu des Américains, en tout cas à l'insu de différentes administrations américaines. On sait que les États-Unis, ils n'ont pas le droit du tout de vendre ce type d'armement de très haute technologie à des alliés traditionnels des Occidentaux. Et on a appris également qu'il fallait l'accord du Congrès, l'accord du Département d'État, qui ont été totalement zappés dans ce dossier-là. Mmh. On a appris une dernière chose, c'était le gendre de Trump, il est souvent dans les parages en ce qui concerne les Émirats arabes unis, Jared Kushner. Donc il aurait négocié dans l'ombre et directement avec le prince hérité Mohamed Ben Zayed. Frédéric Ancel, sans être totalement paranoïaque ou complotiste, est-ce qu'on peut imaginer que derrière cet accord de normalisation, il y a finalement un simple deal d'armurier, un simple contrat d'armement?
C'est un petit peu ce qui s'est passé en 78-79, parce qu'à l'époque, ce sont les accords de paix de Camp David, dont on dit...
Entre l'Égypte et Israël.
Dont on rappelle à tort que ce n'est qu'un accord qu'entre l'Égypte et Israël. Mais justement, il est tripartite. Les États-Unis sont partie prenante au même titre que chacun des deux protagonistes. Et pour prix du maintien de cet accord, chacun des deux États, depuis 1979, touche un certain nombre de milliards de dollars alors, à dépenser dans les stocks américains.
Mais là, en l'occurrence, il s'agit de vendre des armes pour garantir la paix, si on comprend bien, et si ça fait bien partie d'une clause de l'accord.
Oui, c'est-à-dire si les Émirats arabes unis sont très virulemment anti-iraniens, s'ils ont combattu et avec une certaine efficacité, contrairement aux Saoudiens au Yémen quand même, et avec des blindés français d'ailleurs. Si aujourd'hui ils se rapprochent d'Israël au point de reconnaître l'État hébreu et au fond, oui, d'être quelque part son allié, moi je vois pas de complot derrière. Moi je pense que là on a quelque chose de relativement cohérent. J'ajoutais un point très important, les Américains et un président américain a besoin d'une économie forte. Il a besoin que ces gens travaillent, parmi ces gens les ouvriers, et les CF-35 sont les meilleurs chasseurs
d'embarquement du monde. Le complexe militaire ou industriel.
Le complexe, là-dessus, joue beaucoup. Donc je pense qu'il a tenté sans doute de faire d'une pierre deux coups.
Ouais. Ah oui, sans demander son avis au Congrès. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Jean-Paul Chamorro?
Moi, je crois que c'est une analyse évidemment tout à fait pertinente de mon ami Frédéric, bien sûr. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas trop extrapoler. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait trois dirigeants qui ont besoin les uns des autres à un moment donné me paraît aujourd'hui une idée tout à fait importante. Et c'est pas simplement ces trois personnages, c'est vraiment un cercle ou trois cercles autour du bureau ovale qui ont des liens très anciens. Par exemple, l'ambassadeur, pour être très concret une seconde, l'ambassadeur des Émirats à Washington a joué un rôle majeur. Il était en contact avec Kouchner depuis longtemps. Donc on a tout de même quelque chose qui est de l'ordre du bricolage politique ou géopolitique dans une conjoncture. Quand vous dites on vient d'apprendre telle ou telle chose, je pense que dans les prochains semaine, on va encore apprendre bien des choses.
Jean-Paul, juste une question pour relativiser ce mot de bricolage. On est aussi dans une constante, Frédéric Ancel en parlait, accord entre l'Égypte et Israël, Jimmy Carter est au-dessus. Accord entre les Palestiniens et Israël, Bill Clinton est au-dessus. Accord entre les Émirats et Israël, c'est Donald Trump. Il y a une constante de Pax Americana ou de tentative de Pax Americana au Proche-Orient.
Vous avez tout à fait raison. Sauf que je ne mettrai pas du tout sur le même plan les différents éléments ou les différents exemples que vous avez donnés. Dans le cas de l'Égypte, on a affaire à la fin du conflit israélo-arabe, qui date de 1948. Okay. Donc c'est vraiment, alors là pour le coup, un accord historique très profond, qui a complètement revu et corrigé la géopolitique. Si on prend le deuxième accord, qui est d'une ampleur aussi très importante, c'est avec la Jordanie en 1994. Mais là, en 1994, nous étions dans un moment historique, non pas un accord historique, mais un moment historique où on pensait qu'il y aurait une paix globale. Et ça a été le naufrage d'Oslo. Et puis, évidemment, la paix avec la Jordanie a continué. Donc, on est dans des contextes radicalement différents. Dans les deux précédents, on est dans du long terme. Pour le moment, moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui plutôt sur du court terme. Et juste un dernier mot qui est quand même important, c'est que cet accord s'est fait du point de vue d'Abu Dhabi, même si ce n'est pas encore complètement signé. Ça s'est fait de manière unilatérale, au mépris d'un accord du plan arabe de la Ligue arabe de 2002 qui stipule qu'on est prêt à reconnaître l'État d'Israël, normalisation de l'ensemble du monde arabe avec Israël, à la condition qu'il y ait la création d'un État palestinien conformément aux résolutions des Nations Unies. Donc c'est aussi un élément important. Le long terme, ça aurait été ça. Là, on est, à mon avis, encore dans du court terme.
On va déjà décrit la position de l'Iran, qui est peut-être plus complexe que ce que ne le suppose le patron du Mossad. Parlons plutôt de la suite. Est-ce que M. Yossi Cohen a d'autres prises en vue? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres pays arabes, l'Arabie Saoudite ou autres, s'engager vers la voie d'accord officielle avec Israël?
C'est ce qu'on peut éventuellement imaginer, oui. C'est pour cette raison, en fait, que les éléments que j'ai mis en perspective n'ont finalement de valeur que dans le cadre d'une sorte de cascade.
Qui serait, dans cette cascade, ça serait quoi? L'Arabie Saoudite, en dépit du fait qu'elle parraine un plan qui est rendu obsolète par l'accord récent?
Il faut peut-être chercher du côté de ceux qui sont hystériquement anti-frères musulmans. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que les Émirats, au premier chef, ont signé ces accords. On s'en rend bien compte, celui qui veut devenir le champion du monde sunnite et finalement supplanter l'Arabie Saoudite en termes de soft power, c'est la Turquie actuellement. Mmh. La Turquie, c'est le frérisme, c'est la victoire éclatante du frérisme.
Avant, les frères musulmans, mouvement d'opposition islamiste égyptien qui a essaimé dans tout le monde arabo-musulman.
L'AKP est frériste, donc on peut éventuellement envisager cela. Le fait d'avoir transformé, par exemple, Sainte-Sophie en mosquée, dans le tweet gouvernemental de la Turquie suite à cet événement, il s'agissait de Jérusalem comme étape prochaine. Donc vous voyez comment on veut essayer de récupérer le soft power palestinien, ce qui me porte à croire d'ailleurs que désormais l'antisionisme sera beaucoup moins une politique pragmatique qu'un soft power établi.
Alors Frédéric Ancel, est-ce que c'est un discours de l'ancien monde où on considérait que la question israélo-palestinienne